Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Alors avant tout, je vous souhaite une très belle année 2024, je vous la souhaite passionnante et enrichissante. Et en ce début d'année, je voulais vous proposer un épisode un peu spécial. Je vais juste vous partager ma lecture toute personnelle, imparfaite et incomplète très certainement, de tendances que je pressens pour 2024 en lien avec le sens et qui auront des incidences sur le monde professionnel. Oui, l'allitération est volontaire. Alors j'en ai retenu 9. Il y en a probablement beaucoup plus et je suis sûr que j'en ai oublié de très importantes. Mais avant de commencer aussi, les habitués du podcast et de la newsletter le savent, je suis amateur de musique, donc je me suis dit que j'allais agrémenter chacune des tendances d'un morceau pour rendre cet épisode un peu plus vivant. Mais allez, trêve de bavardage, c'est parti. Pour cette première tendance, je l'ai appelée le choc des envies. Chacun a ses envies, ses besoins, mais que se passe-t-il quand mes envies sont néfastes pour la société ou l'environnement? Sont-elles répréhensibles? Doivent-elles être contrôlées? Certains se restreignent, changent d'habitude, trouvent d'autres sources de satisfaction et de satiété pour le bien et la pérennité de la société, d'un point de vue social et ou environnemental, tandis que d'autres changent peu ou pas du tout, voire ne sont pas prêts à le faire. C'est d'ailleurs ce que montrait un sondage récent de Cluster 17 pour Le Point, ou ce que Kantar a appelé les plaisirs coupables dans une récente étude. Parfois, certains sont même fiers de ne pas changer. Après moi, le déluge. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une forme d'exaspération qui émerge dans les deux camps. Ceux qui changent comprennent de moins en moins le mutisme des attentistes. Et à l'inverse, les partisans du comme avant en ont marre des moralisateurs et autres promoteurs d'un discours sombre et catastrophiste. Pour moi, cette tension va s'intensifier en 2024 et on peut s'attendre à ce que des oppositions se cristallisent en entreprise, que ça soit entre la direction et les collaborateurs, pas forcément d'ailleurs avec des collaborateurs plus volontaires, et entre collaborateurs. Je pense que ce sujet va être encore plus fort dans les entreprises qui s'engagent. En effet, c'est un processus sans fin. Pour certains, il ne va pas assez vite, pour d'autres, il bouscule trop d'habitude. Oui, là, carrément, je suis parti sur du Queen, pour cette deuxième tendance que j'ai appelée « moi avant tout ». On est de plus en plus dans l'ère de l'individu. On cherche toujours plus de confort matériel, psychologique, financier. On veut atteindre son équilibre selon son propre référentiel. C'est renforcé par les réseaux sociaux qui sont foncièrement nombrilistes et vecteurs de comparaison, mais également par l'explosion du développement personnel, de la demande croissante de prise en compte des diversités, de l'adaptation aux besoins de chacun forcément différents des autres, de l'ultra-personnalisation qu'on nous vend, de la flexibilisation de nos sphères personnelles et professionnelles. Évidemment, si beaucoup de ces évolutions sont souhaitables, certaines couvrent un pendant négatif qui va continuer de s'affirmer. La conception que mes envies sont plus essentielles que celles des autres. En entreprise, cela risque de se traduire de plus en plus par une priorisation de son équilibre personnel, potentiellement au détriment de son équipe et plus généralement du collectif. Former un corps social commun va devenir plus fastidieux car il faut prendre en compte beaucoup plus de paramètres avec des personnes parfois prêtes à moins de compromis sur leur situation.
Commencer un meeting par 20 minutes de test de leçon. Attendre après Roger qui est dans la mauvaise réunion. Puis parler tout le monde en même temps, suivi de longs silences gênants. Se faire interrompre par ta mère qui t'apporte à manger, ou ton chat qui fait son lit sur ton clavier, ou tes voisins d'en haut qui ont décidé que c'est la journée idéale pour rénover. Ah, que c'est beau la technologie! Je ne vois pas pourquoi je quitterais le télétravail, il n'y a aucune faille.
Je me suis dit, tiens, essayons ce petit morceau qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, que j'ai trouvé assez amusant pour cette troisième tendance que j'ai appelée « bureau ou pas bureau ? Flexible ou pas flexible ?» Parce qu'en fait, c'est vrai que le débat sur le télétravail, ça devient un peu une sorte de serpent de mer. À mesure que les gestes barrières s'effacent, les habitudes prises pendant la période Covid en font de même. Le télétravail semble être un acquis pour les entreprises qui pouvaient le mettre en place. Dans nombre d'entre elles, des accords de télétravail ont même été négociés. Mais voilà, il y a un hic. Cela bouscule les organisations et beaucoup n'ont pas évolué. Elles ont mis en place du télétravail en conservant les mêmes rituels, la même organisation, les mêmes habitudes de travail et le même style de management qu'avant. Forcément, ça ne marche pas. Dans ces organisations, onboarder les nouveaux arrivants s'avère une tâche complexe quand il y a beaucoup de télétravail, les liens se distendent. Peut-être est-ce en partie lié à une culture trop faiblement incarnée, comme le soupçonnent mes collègues de Biharmoniste dans un récent épisode du podcast Harmony Inside. Bref, le retour au bureau devient une politique de plus en plus forte, voire imposée. Aux États-Unis d'ailleurs, je l'ai appris, il y a un acronyme, le RTO, Return to the Office. Vous verrez, tapez sur n'importe quel moteur de recherche, vous avez d'innombrables articles sur le sujet. De nombreuses entreprises renégocient aujourd'hui les accords de télétravail, parfois pour mieux encadrer, mais également pour limiter le nombre de jours hors du bureau. En France, le télétravail semble plutôt acquis dans les grandes entreprises et pas mal d'entreprises de services. Mais pour beaucoup de TPE, PME et ETI, au fonctionnement peut-être un peu plus traditionnel, rien n'est fait. On va ainsi voir des niveaux de débat très différents. Dans certaines entreprises, l'enjeu portera sur la pérennité du télétravail au-delà d'une journée par semaine, quand d'autres réfléchiront à flexibiliser encore davantage le lieu de télétravail en utilisant par exemple des lieux de coworking. Vous le verrez d'ailleurs dans un prochain épisode du podcast. Comme le notait l'Observatoire du télétravail dans un rapport sorti l'an dernier, de nombreux impensés doivent être traités. L'espace de travail, l'organisation du bureau, mais également le management dans un contexte hybride. Ça me rappelle de vieux souvenirs, cette chanson. C'était le générique d'une série que je regardais à l'époque qui s'appelle Entourage et que je trouve assez génial d'ailleurs. Je vous le conseille. Cette chanson, pour vous parler de la quatrième thématique que j'ai intitulée « Le partage de la valeur devient un enjeu social de premier ordre ». Dans un contexte où les salaires évoluent bien moins vite que l'inflation, mais où il faut tout de même rétribuer le travail, maintenir l'engagement, fidéliser les collaborateurs et en attirer de nouveaux, eh bien, les entreprises vont de plus en plus se saisir de tous les dispositifs de partage de la valeur, selon d'ailleurs le baromètre du partage du profit d'RS, que ça soit avec de l'actionnariat salarié, des primes d'intéressement, de participation et autres. La loi Pacte avait déjà facilité ces démarches, mais beaucoup de ces dispositifs restaient surtout utilisés par les grandes entreprises, avait montré un rapport de France Stratégie. En 2023, la loi sur le partage de la valeur a rendu les choses beaucoup plus concrètes pour les entreprises de moins de 50 salariés. Puisque d'ici 2025, celles réalisant un bénéfice net d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs seront quasi obligées de mettre en place un dispositif de participation, d'épargne salariale ou de verser une prime de partage de la valeur. On peut donc s'attendre à voir de plus en plus d'accords, que ce soit dans les startups ou dans les entreprises plus établies, aussi bien pour pallier des manques d'augmentation que pour instaurer de nouveaux mécanismes de fidélisation. Et oui, l'argent reste encore un formidable booster d'engagement. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is
6.
And 3 times 6 is
18.
And the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Je dois avouer que j'ai découvert cette chanson en préparant cet échange. Évidemment, je connaissais les 3 R, mais pas que Jack Johnson avait fait une chanson dessus. Pour parler de cette 5e thématique que j'ai intitulée « La réglementation environnementale et sociale va continuer à se dérouler pour tout le monde ». 2024 va clairement être l'année de la CSRD, donc la fameuse Corporate Sustainability Reporting Directive, qui rentre en application. D'autres directives européennes arrivent, comme la Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD, autrement dit le droit de vigilance à l'échelle européenne. Et on parle depuis quelque temps d'une taxonomie sociale, le pendant de sa cousine environnementale, et bien d'autres encore. Elles vont avoir des incidences importantes. Tout d'abord, le nombre d'entreprises directement concernées par ces réglementations extra-financières augmente. En 2024, l'effet semblera encore limité, mais toutes les autres concernées prendront des notes sur celles qui vont essuyer les plâtres, les plus grandes pour commencer. Ensuite, ces réglementations vont infuser plus indirectement chez leurs fournisseurs. Il ne faudra plus être surpris de devoir aligner ces enjeux RSE internes sur ceux de ses clients, surtout quand vous êtes des fournisseurs clés. De même, pas de surprise non plus à ce que les demandes de labellisation, de certification et autres se multiplient pour donner des gages aux clients. Et enfin, que dans les marchés publics, mais surtout privés, des exigences RSE prennent progressivement de plus en plus de poids. Autre point intéressant, le point de l'extra-financier devrait créer un nouveau jeu de pouvoir dans les entreprises, comme le pressent Sébastien Mandron, le directeur RSE du groupe Worldline, dans un épisode du podcast Le Sens et l'Action. En fait, il explique que maintenant, le département RSE va être en droit d'exiger du reporting de la part d'autres directions, y compris de la finance, alors qu'il représente un pouillème des dépenses et investissements de l'entreprise, surtout que généralement, c'est une toute petite équipe. Ça sent bon les échanges bienveillants, ça.
Marche. Marche avec moi. Apprends-moi. Méga, 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 méga. Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire de bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. Écarte-moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un. Aide-moi à trouver l'équilibre. Grandir n'est jamais fini. Je sais mieux donner les conseils que les suivre. Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre.
Alors forcément, sur tous ces sujets-là, c'était difficile de passer à côté d'un morceau d'Orelsan. Et là, c'est un petit clin d'œil à une précédente invitée du podcast aussi qui se reconnaîtra. Pour cette 6e thématique que j'ai intitulée « Les attentes des collaborateurs en matière de RSE vont s'accentuer ». Aujourd'hui, clairement, la volonté d'agir est bien là, mais le passage à l'action est plus incertain, comme le rappelait une étude de BPI France Le Lab assez récente. La RSE reste un objet mal compris, même si c'est normé de très longue date. On a parfois même l'impression que c'est un moyen de justifier qu'on n'a pas fait grand-chose. Pourtant, beaucoup d'entreprises mènent des actions, diverses et variées, mais beaucoup, en fait, manquent de trajectoire, de priorité ou de cadre d'action. Mais ça va devenir de plus en plus difficile à accepter pour les collaborateurs, surtout sur les aspects environnementaux. En fait, assez étrangement, sur les aspects sociaux, il y a certains manques qui relèvent souvent du « bah on a toujours fait comme ça », qui génèrent une forme d'acceptabilité. Alors, pour combien de temps, ça reste à voir. En revanche, sur les sujets environnementaux, ne pas faire le tri, ne pas avoir d'action en faveur de la biodiversité, ne pas chercher de solution pour moins polluer, etc., sont des sujets entre guillemets « émergents » qui viennent bousculer les états d'esprit. Et beaucoup de collaborateurs voudront que leurs entreprises fassent plus. C'est d'ailleurs ce que rappelait le dernier baromètre de Segos sur la RSE. C'est une attente certes floue, mais qui demande d'être traitée sous peine de remarques désobligeantes, d'un désengagement de certains, voire d'actions délibérément négatives en interne. Mais attention, une fois engagé, difficile de se limiter à des mesurettes.
Ow, wow. river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back.
Mais alors là, pareil, pour cette chanson, petit clin d'œil à un précédent invité du podcast qui se reconnaîtra aussi, pour cette thématique que j'ai intitulée moins d'argent facile égale a priori plus d'impact mesuré. En fait, l'argent facile aujourd'hui nous coule plus à flot, que ce soit au niveau des banques avec des taux d'intérêt revus à la hausse ou les fonds d'investissement qui sont beaucoup plus pointilleux sur leurs choix. L'ère est à plus de frugalité, faire moins avec mieux et démontrer davantage l'effet de ses actions. À mesure que les réglementations ESG vont jouer sur les sociétés de gestion, on peut penser que leurs demandes de preuve de l'impact seront de plus en plus fortes et de plus en plus claires sur leur participation. Aujourd'hui, impact reste encore très synonyme de positif, mais la mesure reste faible. Autrement dit, beaucoup d'entreprises se disent « à impact », entre guillemets, parce que par nature, leur activité s'insère dans un champ d'action positif. Néanmoins, elles sont encore nombreuses à manquer de transparence sur la réalité de leurs effets. On peut donc s'attendre à ce que cela change progressivement sous la demande de sociétés de gestion, notamment celles qui poussent le plus sur ces sujets, mais également d'autres investisseurs plus classiques sous l'effet de la réglementation ainsi que de leurs souscripteurs. Et peut-être même pouvons-nous espérer que nous autres citoyens disposant d'un plan d'épargne nous rendrons un peu plus compte du pouvoir dont nous disposons.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop or mad.
Alors ça ne nous rajeunit pas de réécouter ce morceau de Daft Punk, quand même toujours aussi génial, pour cette huitième thématique que j'ai intitulée « L'IA générative va-t-elle nous sauver ?» Alors, le métaverse est en période d'hibernation indéfinie, et en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les outils d'IA générative, eux, vont continuer de s'accélérer très brutalement en 2024. Aux côtés des outils accessibles à tous comme OpenAI, donc ChatGPT et DALL-E, et Bard, d'innombrables applications lancent leurs fonctions d'IA générative. Alors tout y passe, pour la réalisation de synthèses, l'édition d'images, la réalisation de scripts, de storyboards, la recherche documentaire et la formulation de conseils, et j'en oublie. Beaucoup y voient un gain de temps énorme, ainsi que la délégation de tâches rébarbatives. On commence également à voir d'autres effets. Alors, il y a la création de nouveaux postes, les prompt managers. Mais inversement, d'autres deviennent redondants, et certains métiers se voient menacés. On commence à le voir d'ailleurs dans l'univers du conseil. On devrait également voir de plus en plus d'entreprises, surtout les grandes pour le moment, développer leurs propres outils d'IA générative. On est vraiment au début de l'histoire car on est loin de savoir jusqu'où ces outils sont capables d'aller, au point d'ailleurs de créer de nouveaux tests de Turing, vu les capacités actuelles de l'intelligence artificielle. Ces années, ce sera la grande explosion, probablement avec de bonnes surprises, des déceptions et surtout pas mal de n'importe quoi. Surtout, il est bien difficile d'anticiper les incidences que cela aura sur le travail. Il faudra former au bon usage de ces outils, sous peine qu'ils soient peu ou mal utilisés. Il faudra les insérer dans des processus existants ou en créer de nouveaux en interne sans les imposer arbitrairement pour autant, et on sait que c'est souvent le cas pour les nouveaux outils. Mais également, il faudra comprendre quoi faire du temps dégagé si effectivement ces outils font gagner du temps.
Oh,
Pour terminer, une bonne voix féminine avec Florence and the Machine sur une chanson que j'aime beaucoup, Shake It Out, pour parler de la société à mission. Quand même, c'est un peu l'objectif du podcast, donc ce serait bizarre de ne pas avoir une thématique dessus. Et donc j'ai appelé cette neuvième tendance la nouvelle ère de la société à mission. Je pourrais presque mettre un point d'interrogation, mais je préfère être affirmatif. La société à mission va fêter ses 5 ans cette année. Alors on fera le bilan plus tard, mais avant tout, il faut reconnaître que c'est un cadre qui commence à souffrir de son caractère ultra souple. La liberté de définir sa propre mission, ses propres orientations et ses propres objectifs se heurte à la compréhension, à la sincérité et à la profondeur de l'exercice par les entreprises. Désormais, la société à mission ne touche plus que les fervents convaincus. D'autres entreprises, jusqu'alors plus attentives, se lancent, maintenant que l'on dispose de retours d'expérience et en fait ça se passe bien. Et d'autres flairent la bonne opportunité à faible coût. D'aucuns ont compris que la liberté du cadre se traduisait par une contrainte limitée dans la formulation de la mission, dans les objectifs qu'on se fixe et in fine dans la vérification qui en est faite. Celle-ci regarde évidemment surtout l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés, pas leur profondeur ou leur pertinence. La question va donc se poser de manière de plus en plus pressante de savoir si cette souplesse est soutenable à terme. Alors je fais un petit teaser d'un rapport que je vais bientôt sortir, où on se rend compte qu'une très grosse majorité des entreprises à mission n'ont pas publié l'avis de vérification de l'organisme tiers indépendant, alors que c'est une des quelques obligations légales liées à la qualité de société à mission. Et donc il faudra se poser la question s'il ne faut pas instaurer d'autres dispositifs qui servent de garde-fous, voire qui contraignent davantage. J'en ai terminé avec cet épisode des 9 tendances du sens que je pressens pour 2024. J'espère qu'elles vous auront intéressé, peut-être interrogé. J'espère que vous avez appris quelques petites choses au passage. Je vous invite par ailleurs à vous rendre sur le site de la newsletter, donc machineasens.substack.com, pour répondre à une courte enquête qui me permet de mieux comprendre ce qui vous intéresse en tant qu'auditeur et également pour les lecteurs de la newsletter. Je mettrai également le lien de l'enquête directement dans les notes de l'épisode. C'est vraiment très utile en fait pour moi d'avoir ces retours là parce que j'ai quelques questions aussi sur des formats que je souhaiterais tester pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc merci de prendre ces quelques minutes pour y répondre. Pour la prochaine fois, on viendra sur un épisode un peu plus classique avec Guillaume Pellegrin, qui est le dirigeant fondateur de Newton Offices, une société à mission qui est basée à Marseille. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager sur les réseaux sociaux, à votre entourage, à mettre quelques petites étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast ou sur Spotify depuis l'application mobile. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, encore une fois, bonne année et à très vite pour un prochain épisode.